maintenant, place au théâtre.
À la fin de l'épisode précédent, Molière et sa troupe s'apprêtaient à jouer Tartuffe pour la première fois, lors de la fête des plaisirs de l'île enchantée.
Finalement, nous avions raison, Madeleine et moi, tout s'est très bien passé hier soir.
Eh bien, c'est le compte-rendu de cette pièce jouée la veille qui entame ce 7e épisode.
Tartuffe a rencontré le plus vif succès. Le roi et la cour ont beaucoup ri et beaucoup applaudi. Je peux tracer encore une fois dans la marge de mon registre un rond bleu.
Le rond bleu, synonyme des événements heureux pour la troupe. Le roi a ri devant ce Tartuffe qui brocarde l'hypocrisie des dévots catholiques. Cependant, quelques jours plus tard, de retour à Paris, Molière a dû convoquer ses comédiens.
Le roi nous interdit de poursuivre les représentations de Tartuffe.
Mais pourquoi ?
Quelques messieurs tâchent d'insinuer que ce n'est point au théâtre à parler de ces matières.
Ces quelques messieurs, les dévots, ont fait interdire la pièce. Rideau. C'est le début de l'affaire Tartuffe. Affaire d'État sulfureuse où se mêlent politique, religion et comédie morale.
Pourquoi voir le mal partout ?
Parce qu'il est partout !
Tartuffe. Tout le monde connaît ce nom. Tartuffe l'hypocrite, Tartuffe l'imposteur. Mais sait-on quels enjeux politiques se cachent derrière ce directeur de conscience gros et gras ?
Il en irait bien mieux si tout se gouvernait par ses ordres pieux.
Qu'il passe pour un saint dans votre fantaisie. Tout son fait, croyez-moi, n'est rien qu'hypocrisie.
Dans cette pièce, Molière a voulu s'attaquer aux excès de la dévotion chez les catholiques. Mais cette comédie eut l'effet d'un feu grégeois au cœur d'un royaume secoué par une querelle religieuse menée par les jansénistes. Religion et liberté d'expression, voici l'histoire du scandale Tartuffe.
Alors qu'est-ce qu'on fait ?
Nous allons parler du théâtre.
Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit.
Que l'on commence !
Je m'appelle Philippe Collin. Et vous écoutez Molière, le chien et le loup.
Molière, vous avez su infiniment nous plaire.
7e épisode, au nom de Dieu.
Eh bien, mesdames, messieurs, nous allons commencer la visite de Paris. En avant, chauffeur. À votre gauche, vous avez l'aile droite du Louvre. Vous pouvez prendre des photos, messieurs, dames, c'est permis.
Cette fois-ci, notre histoire débute au Louvre, résidence royale de Louis XIV. Mais nous y avons rendez-vous en 1949. C'est donc devenu un musée.
Monsieur, c'est interdit de toucher.
J'admirais, monsieur.
Là, parmi les fantômes du grand siècle, nous attend un conservateur, invité d'une émission de l'ORTF au titre vertigineux, Vérités et chimères.
1616-1620, la peinture en France par M. René Huyghe, conservateur en chef des peintures et dessins du musée du Louvre.
En quoi un conservateur en chef des peintures du Louvre peut nous être utile dans l'affaire Tartuffe ? Vous allez comprendre.
On dit le 17e siècle et on pense toujours Louis XIV, le roi soleil, Versailles, Lebrun. C'est oublier un peu vite que le roi est né en 1638, donc au moment où le siècle avait déjà vécu une grande partie de son existence. Il y a donc un autre 17e siècle, la première moitié, qui ne doit rien et pour cause à Louis XIV et à qui, au contraire, Louis XIV doit tant. C'est le 17e siècle de Louis XIII, de Richelieu, de Port-Royal.
Port-Royal, nous y voilà. L'abbaye de Port-Royal, dans la vallée de Chevreuse, au sud-ouest de Paris, fut l'épicentre du jansénisme. Et nous allons vite y revenir. Aux jansénistes.
Pax vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Mais d'abord, écoutons à nouveau notre conservateur. Qu'a-t-il à dire du XVIe siècle ?
On y voit mourir une civilisation, celle du Moyen-Âge, celle d'une société qui était basée sur Dieu. On y voit naître une nouvelle civilisation, celle des temps modernes, basée sur l'homme et sur ses rapports avec le réel. Le XVIIe siècle sort de cette fournaise, de cette chaudière, la tête encore étourdie, le souffle haletant. Et alors il essaie de reprendre ses esprits. Il essaie de mettre de l'ordre dans ses pensées et dans sa vie.
Oui, le XVIe siècle a profondément ébranlé un bon nombre de certitudes. Une période inouïe.
Une période où l'homme au XVIe siècle a, pensez-y, découvert le monde.
Terra incognita.
Découvert l'indépendance de la pensée avec le protestantisme, avec la libre pensée. Découvert la puissance de la pensée, car c'est le XVIe siècle qui a amorcé la science. Découvert la diffusion de la pensée, car c'est le XVIe siècle qui a découvert le livre. Après cette période extraordinaire, le XVIIe siècle prend conscience de ses responsabilités. Il voit que l'homme doit surmonter cette nouveauté qui risque de le déborder. Alors, il interroge son destin.
Dieu punit tout!
Et en effet, face à ces nouvelles connaissances du monde et face à la remise en cause de certaines vérités, la place de Dieu est questionnée. L'homme du XVIIe siècle s'inquiète de sa destinée. Il s'interroge : qui suis-je sur terre ? Est-ce que je peux aider Dieu à sauver mon âme ? Est-ce que je peux participer à mon salut ? Ou alors lui seul a-t-il ce pouvoir ? Ça n'a l'air de rien aujourd'hui. Mais à l'époque, la question est cruciale. Il s'agit de gagner son paradis ou d'être condamné aux enfers.
Abjures-tu le diable et désormais tiens-tu Jésus-Christ pour ton Seigneur et Sauveur ?
Et au cœur de ce débat spirituel surgissent les jansénistes. Alors d'abord, d'où viennent-ils ?
Ben en fait, ils viennent de très loin, parce que le jansénisme, c'est une sorte de rebondissement d'une inquiétude théologique qui est au sein du christianisme depuis pratiquement les origines, et en tout cas depuis la fin de l'Antiquité.
Fabrice Boutillon est historien.
Autour de Saint-Augustin, donc si vous voulez, c'est la fin du 4e, du 5e siècle, on s'est posé des questions pour savoir finalement qui était véritablement l'acteur du salut des hommes. Est-ce que c'est Dieu qui sauve, et exclusivement Dieu, ou est-ce que les hommes coopèrent à leur salut, sont capables de faire quelque chose pour être sauvés. Alors, il y a eu des querelles extrêmement graves dès cette époque-là du christianisme, et en fait, elles vont rebondir au XVIIe siècle. Elles rebondissent parce qu'à certains égards, il y a eu la réforme protestante, il y a eu Calvin, et que Calvin a insisté sur le poids de la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui sauve, et si vous n'avez pas la grâce de Dieu, vous ne pouvez pas être sauvé. C'est la position calviniste. Et à l'intérieur du catholicisme, vous allez avoir des gens qui vont reprendre cette position, et en particulier donc un évêque qui était un évêque des Flandres espagnoles, Jansénius. Et Jansénius va publier un énorme traité, plusieurs in-folios en latin, intitulé Augustinus, Augustin, et dans lesquels il dit que la doctrine de Saint-Augustin, justement, c'est que seule la grâce de Dieu peut sauver, et que l'homme est incapable, en somme, de faire quelque chose pour son salut sans cette grâce de Dieu. Et contre lui, vous allez donc avoir une autre école théologique, représenté par les jésuites en particulier, qui va dire que non, l'homme est capable de faire quelque chose pour son salut et qu'il est capable de coopérer à la grâce de Dieu. Et vous allez avoir, à partir de là, une querelle entre deux tendances théologiques qui va finir par agréger à soi toutes sortes d'enjeux politiques, entre autres, mais pas seulement politiques, puisque avec Molière en particulier, on va voir que ça va entraîner aussi des enjeux esthétiques ou littéraires avec Blaise Pascal.
Les jansénistes, leur volonté d'être fidèles aux Écritures sont pires que celles des protestants.
Et ils mettent déjà bien à mal les principes de notre grande Église catholique pour ne pas vouloir se mêler des comédies qui se jouent à la cour, j'espère.
Bien au contraire, Votre Majesté.
Quel regard portait le pouvoir royal, en l'occurrence le roi très chrétien, le roi de droit divin, Louis XIV, sur ce courant janséniste ?
Eh bien, en fait, non seulement le roi, mais les rois très chrétiens, parce que ça commence dès Louis XIII, avec le cardinal de Richelieu, il a tout de suite été extrêmement méfiant. Et il a très vite repéré chez les jansénistes français un esprit de parti, un esprit d'indépendance par rapport à la monarchie. Et il a très vite considéré que le jansénisme pouvait devenir un parti d'opposition extrêmement dangereux pour le pouvoir royal. Et c'est ainsi que il a fait enfermer l'un des premiers amis de Jansénius, qui s'appelait Saint-Cyran. Saint-Cyran était un directeur de conscience extrêmement recherché et estimé.
Je fus la dernière qui me confessait à vous, et je l'appréhendais.
Oui, je craignais ce que j'aimais et désirais, qui était la forte, sainte, droite et éclairée conduite que vous étiez appelé à exercer sur moi.
Et Richelieu l'a fait enfermer à la Bastille, en espérant comme cela étouffer dans l'œuf le jansénisme, et c'était avant même l'apparition du livre de Janssen.
C'est une nouvelle provocation des jansénistes. La parole divine doit être transmise en latin, et non être accessible à tous, au risque qu'ils s'en accommodent.
Nous vous entendons.
Quiconque lira cette traduction du Nouveau Testament sera excommunié.
Je vous rejoins d'ailleurs pour ne point précipiter l'Église dans le schisme qui la menace. Notre Conseil d'État vient d'édicter un arrêt interdisant à tout libraire du royaume d'éditer ou de vendre cette nouvelle traduction.
Que Dieu vous en soit reconnaissant, sire. Je m'en vais de ce pas porter cette bonne nouvelle à nos évêques.
C'est d'abord, je pense, pour des raisons politiques qu'il va intervenir, car il est roi de France à une époque où ce qui est en train de se construire, ce n'est pas seulement la monarchie absolue, comme on le dit trop rapidement, c'est l'État absolu. Et l'État absolu, qui sera prolongé après 1789 par la République absolue, l'État absolu n'aime pas l'indépendance de l'Église. Or, dans la mesure où les jansénistes défendent mordicus leur opinion théologique, eh bien, ils défendent aussi une certaine indépendance en matière de religion. Et cela, l'État absolu ne l'aime pas.
Et alors, est-ce qu'on peut considérer, Fabrice Boutillon, que dans ce registre politique, que derrière ce courant janséniste qui défend une doctrine religieuse, est-ce que pouvait se cacher aussi une partie de la Fronde, par exemple, qui avait été muselée par Louis XIV, on le sait, est-ce que l'État absolu peut redouter que des grands seigneurs de la Fronde puissent se dissimuler sous des revendications jansénistes?
Louis XIV et ses ministres avaient quand même d'excellentes raisons de se poser la question. Hein, parce que c'est vrai qu'à l'époque où éclate cette querelle, la Fronde est à peine achevée. La Fronde avait été un mouvement, d'une part, de la haute noblesse, d'autre part, de parlementaire au sens du Parlement de Paris, l'Ancien Régime, c'est-à-dire de très hauts magistrats qui rendaient la justice suprême dans le royaume au nom du roi. Or, autour du jansénisme, il y a quand même beaucoup de beau monde. Par exemple, vous avez la duchesse de Longueville. La duchesse de Longueville avait été l'une des principales frondeuses parce que la Fronde a aussi toute une dimension féminine, voyez-vous, de femmes qui font de la politique. Et Louis XIV aimait ça moyennement. Il préférait qu'elle fasse autre chose. Donc, il y a cette grande dame. Vous avez quelqu'un comme le cardinal de Ré, qui avait été l'un des frondeurs les plus dangereux pour la monarchie. Le cardinal de Ré avait été archevêque de Paris. Le roi avait eu beaucoup de mal à s'en débarrasser. Et il est relativement favorable au courant janséniste. Et puis, d'autre part, autour du jansénisme, vous avez le milieu parlementaire, même si c'est moins net hein, à l'époque de Louis XIV que ça ne va l'être au XVIIIe siècle. Mais par exemple, un des très grands jansénistes, à côté de Jansénus lui-même et de Saint-Cyran, c'est Arnaud, le grand Arnaud, comme on dira. Or, la famille Arnaud est une famille de parlementaires. Et c'est ce milieu-là qui recommence à s'agiter. Et le roi est tout à fait fondé à lire cette agitation théologique comme une sorte de prolongation de la Fronde, en effet.
Le roi!
Tiens, voilà mon cousin Conti. J'admire, madame, comme il est rentré dans vos grâces. Depuis qu'il a troqué sa vie de bâton de chaise pour les dehors de la plus ardente dévotion.
Lui, au moins, n'affiche pas une maîtresse, 6 mois après s'être marié à l'infante d'Espagne.
Avant de tourner prude, notre cher Conti a fait bien pis que je ne ferai jamais.
Monsieur de Conti est un faux dévot, comme tous ceux de la Compagnie du Saint-Sacrement, que le cardinal avait interdite et qui continue de se réunir en secret. Un faux dévot d'autant plus dangereux qu'il est prince du sang et plus riche que moi. Je hais ses faces de carême et ses mines hypocrites.
Il existait aussi au XVIIe siècle, Fabrice Boutillon, ce qu'on appelait les dévots, Qui était-il et à quoi aspirait-il?
Il faut se souvenir que le XVIIe siècle est une très grande période de reconstruction de l'Église catholique en France. Vous savez qu'au XVIe siècle, l'architecture même de l'Église catholique avait été extrêmement secouée par la réforme. L'Église tâche de se réformer elle-même au Concile de Trente, qui s'achève en 1564, et les décennies qui suivent sont celles de, finalement, l'entrée en vigueur des décisions prises par le Concile de Trente. Vous avez donc une Église qui est en quelque sorte revigorée par ce Concile, et vous allez donc avoir en effet le développement de tout un milieu dévot qui peut réunir non seulement des clercs, des ecclésiastiques, mais des laïcs qui vont essayer de vivre sincèrement leur christianisme.
Pour bien comprendre, Fabrice Boutillon, les dévots veulent vivre en Dieu, mais dans le monde, pas dans un couvent, pas dans un monastère. On doit vivre sa religion dans le monde, mais sous le regard de Dieu.
Oui, absolument. C'est-à-dire que le dévot est très souvent un laïc. Par exemple, un des plus grands succès d'édition du XVIIe siècle a été un petit livre de Saint François de Sales. Saint François de Sales était évêque de Genève, et Saint François de Sales publie un petit traité qu'on va s'arracher, qui s'appelle « L'introduction à la vie dévote ». Et l'une des idées essentielle de l'introduction à la vie dévote, c'est que on peut être un chrétien parfait en restant un laïc, en restant dans le monde. Il n'est pas nécessaire de franchir le seuil d'un monastère, finalement, non seulement pour faire son salut, mais pour être un bon chrétien. On peut le vivre dans le monde. Et ça, encore une fois, la Cour de France l'accepterait, mais elle a beaucoup plus de mal à accepter que, au nom du Christ, on puisse poser certains refus en matière publique et en matière politique.
Il n'y a pas d'autre exemple qu'une querelle d'ordre religieux ait donné naissance à un florilège aussi abondant. Sans doute, la plupart des chansons sur la politique religieuse de Louis XIV et de la Régence ne sont pas d'inspiration populaire. Elles sont plutôt l'œuvre de clercs qui veulent donner aux querelles dogmatiques un tour plus badin. Une chanson met en scène un révérend père Gaillard qui aurait suborné l'une de ses pénitentes.
Bourru janséniste, va pâlir d'effroi. Notre moliniste l'entend mieux que toi. Gaillard, ce Saint-Père, dit de toute la vertu, l'enturlu, l'enturlu. Cet homme commode, menant droit au ciel, est dans sa méthode, tout sucre et tout miel. Il rit des scrupules, et contre eux il a conclu, l'enturlu, l'enturlu.
Résumons. Au XVIIe siècle, l'Église catholique est un champ de bataille. D'un côté, les jansénistes, les adeptes de l'évêque Jansénius. Ils militent pour une pratique religieuse très rigoureuse, dans l'espoir d'obtenir la grâce de Dieu que lui seul peut vous accorder.
Voyez-vous, nous ne pouvons rien au-delà de la grâce.
De l'autre, leurs ennemis, les libertins et les galants, qui aspirent de leur côté à un catholicisme raisonnable, où l'on tolère des entorses aux dogmes, comme avoir des maîtresses ou des amants.
Une grande passion est sans doute fort respectable, mais à quoi cela mène-t-il? À s'ennuyer longtemps l'un avec l'autre?
Compensé par la prière et des actions de charité pour participer au salut de son âme. Enfin, dans cette lutte, les jansénistes peuvent compter sur l'appui de ceux qu'on appelle à l'époque les dévots, autrement dit, la Compagnie du Saint-Sacrement, faction qui se répand sur tout le territoire.
Dieu, qui est l'auteur de tout bien, nous a inspiré d'employer nos soins pour ériger en notre ville d'Orléans une compagnie du Très-Saint-Sacrement, afin d'y rétablir le royaume de Jésus-Christ et de remédier aux vices que nous voyons fourmiller de toutes parts. Comme vous le savez, la Compagnie du Saint-Sacrement de Paris est la mère et le chef de toutes les autres compagnies du royaume. C'est pourquoi nous l'avons prié de nous envoyer ses statues, ainsi que quelques étincelles de ce feu sacré dont nos frères de Paris sont embrasés. La principale fin de la compagnie sera de faire obstacle aux péchés qui se commettent dans notre ville d'Orléans, ainsi que dans les provinces dont nous avons la sauvegarde.
Les dévots ont aussi un programme de réforme morale de la société.
L'historien Georges Forestier
s'efforçait de faire vivre la France entière sur le chemin de la dévotion. Et donc, il se trouve qu'il y a un roi qui s'appelle Louis XIV, qui est jeune, qui est charmant, qui aime l'amour, et il y a une religion de l'amour à la cour. C'est très important ça. Malgré la présence d'Anne d'Autriche qui est dévote, une espagnole dévote, il y a une religion de l'amour à la cour.
Anne d'Autriche, sa mère. Hein.
Oui, pardon. Et particulièrement pour Louis XIV, qui a une femme officielle, une épouse légitime, Marie-Thérèse d'Autriche, infante d'Espagne, qui a une maîtresse en titre, Mademoiselle de la Vallière, et qui a des maîtresses quotidiennes, quasiment. Et évidemment, aux yeux des dévots, cette conception légère de la vie maritale est absolument condamnée, condamnable. Alors, il y a des prêtres en chair qui dénoncent les comportements en général, mais tout le monde sait que le premier visé, c'est Louis XIV, et les dévots, dans leur coin, sont aussi en train de protester.
Il faut travailler à supprimer cette terrible immodestie de la nudité des femmes.
Il faut faire en sorte que toutes les femmes bohèmes soient chassées de cette ville.
Il faut aussi dresser une maison de refuge pour y enfermer les femmes prostituées, maquerelles et scandaleuses.
Faire régner l'ordre de Dieu dans nos provinces. Voilà notre mission.
C'est dans ce contexte religieux intégriste que Louis XIV choisit d'organiser en 1664 la grande fête des plaisirs de l'île enchantée. Molière, observateur affûté de son temps, pense avoir déniché la bonne idée.
Alors, votre idée, vous m'impatientez avec vos précautions oratoires.
Pour satisfaire les désirs de son roi.
Depuis que votre majesté m'honore de sa confiance, elle m'a toujours conseillé de prendre pour modèle de mes comédies les caractères qui se rencontrent à la cour.
C'est vrai.
Voici donc mon idée. Je voudrais peindre un homme vaguement d'église et beaucoup du monde, beau parleur, bien fait de sa personne, qui ne dédaigne pas d'user de son caractère sacré pour se glisser jusque dans le lit des dames et même se coucher, si j'ose dire, sur leur testament.
Oh, mais c'est l'abbé de Roquette que vous peignez là.
Oh, madame,
ce n'est pas à lui que vous pensiez.
À lui et à d'autres, les exemples ne manquent pas.
À la cour.
Oui, ma chérie, à la cour et ailleurs.
Et donc Louis XIV, le jour où, je ne sais pas comment ça s'est passé, personne ne sait comment ça s'est passé, mais le jour où Molière lui parle de son nouveau sujet, qui est la satire des dévots, et de la pratique fondamentale des dévots, c'est-à-dire être guidé par un directeur de conscience, on pourra revenir là-dessus, parce que c'est le point clé et de la pièce et de la pratique des votes, et bien évidemment, il a encouragé Molière. Parce qu'on ne peut pas imaginer que Louis XIV n'ait pas encouragé Molière, dans la mesure où il conclut les fêtes des plaisirs de l'île enchantée, ces grandes fêtes qui se sont déroulées en tout, finalement, pendant une semaine, par cette nouvelle pièce qui est Tartuffe.
Alors, qu'est-ce que c'est que ce directeur de conscience, Georges Forestier ?
François de Sales consacre 4 chapitres à direction de conscience. Parce que, pour être dirigé vers Dieu, puisque c'est ça la dévotion, il faut quelqu'un qui vous conduise, un directeur. Mais, précise-t-il, et c'est ça qui est capital, il faut que ce directeur soit parfait, parce que c'est la voix de Dieu. Vous devez lui obéir comme à Dieu, vous devez l'aimer, le chérir comme votre père, votre frère, etc. etc. Tout ça, des paroles qu'on retrouve dans le portrait des rapports entre Orgon et Tartuffe dans la pièce. On a pris ça au XXe siècle pour une attirance homosexuelle, mais évidemment, en fait, c'est très exactement la transposition satirique de ce qu'explique François de Sales. Mais pourquoi il faut qu'il soit absolument parfait ? Parce que s'il n'est pas parfait, d'abord, il est censé représenter la voix de Dieu, mais il vous conduit vers le péché, alors qu'au contraire, il doit constamment vous retenir sur la pente du péché, vous apprendre à dominer vos passions. Donc, il faut qu'il soit parfait. Donc, un directeur de conscience qui n'est pas tout à fait parfait, c'est-à-dire qui est lui-même sensible à la tentation, c'est un merveilleux sujet, évidemment, de comédie. Parce que faire diriger Orgon par un Tartuffe, il est sincère quand il dit « serrer ma haire avec ma discipline ». Il a effectivement une haire qui lui fait mal et une discipline avec laquelle il se morfond quand il est tenté par le péché.
Serrer ma haire avec ma discipline et prier que toujours le ciel vous illumine. Si l'on vient pour me voir, je vais aux prisonniers des aumônes que j'ai partagé les deniers.
Que d'affectation et de forfanterie.
Que voulez-vous ?
Vous dire.
Ah, mon Dieu, je vous prie, avant que de parler, prenez-moi ce mouchoir.
Comment ?
Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées.
Cela fait venir de coupables pensées.
Vous êtes donc bien tendre à la tentation et la chair sur vos sens fait grande impression.
Et en fait, ce que fait Molière avec ce personnage, c'est le directeur qui est faillible. Celui, justement, que François de Sales déconseille. C'est... Pourquoi est-il gros et gras, le teint frais et la bouche vermeille? Eh bien, pour une raison très simple. C'est que Molière reprend l'image traditionnelle du moine du Moyen-Âge, qui fait l'objet de satire dans toute la littérature médiévale. Il fait tous les offices de la journée. Il prie Dieu toute la journée, mais il est gourmand, il se laisse aller à la tentation, toutes sortes de tentations. Et l'idée, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, comme le moine du Moyen-Âge prie toute la journée, mais il est sensible à toutes les passions, eh bien, le Tartuffe de Molière, il prie toute la journée, il essaye de conduire Orgon sur la voie de la vertu absolue, mais lui-même, il est faillible.
Mesdames, messieurs, la radiodiffusion française présente, en transmission différée, Tartuffe, comédie en 5 actes, en vers de Molière.
C'est donc le 12 mai 1664, à Versailles, que fut jouée la toute première représentation de Tartuffe, satire de la dévotion.
Et Tartuffe ?
Tartuffe ? Il se porte à merveille, gros et gras, le teint frais et la bouche vermeille.
Le pauvre homme !
Ce Tartuffe, gros et gras, directeur de conscience chrétienne, mais pétri de tentation, est un fantôme de vertu, un faux dévot qui dirige ses ouailles. La cour s'esclaffe, car elle pense reconnaître en Tartuffe l'abbé de Roquette. Et, dans les bosquets du jardin, tout près de la scène du théâtre...
Je suis ici à tourner en rond dans ce parc, tandis qu'on daube sur mon dos, impunément, devant le roi.
L'homme en soutane fulmine.
L'abbé de Roquette, c'est moi. Ici, Conti. Vous n'êtes pas là-bas. Vous le voyez bien. Mon habit m'a interdit le théâtre, mais une comédie pareille, c'est elle qui devrait être interdite. Est-ce vrai qu'on y parle de moi ?
Pas du tout. C'est le gros du parc qui joue Tartuffe. Ça ne vous ressemble pas du tout.
De quoi s'agit-il donc, alors ?
Oh, tout ce qui va à l'église y est ridicule. Et seuls ceux qui font la fête ont raison. Voilà toute la pièce. Il s'agit de flatter le roi, pas autre chose.
D'ailleurs, le roi, lui, a passé une excellente soirée, heureux d'avoir vu tourner en ridicule ceux qui lui reprochent son libertinage.
Molière.
Sire.
J'aime cette comédie. Elle m'a beaucoup fait rire.
Donc Louis XIV a ri à cette pièce, et pourtant, Georges Forestier, très vite, il va interdire toute représentation publique du Tartuffe. Pour quelle raison ?
Une semaine plus tôt, Louis XIV se présente donc comme le héros de l'orthodoxie catholique face à l'hérésie janséniste. Ce sont les termes officiels du pouvoir de l'époque. Et voilà que l'archevêque de Paris découvre que Louis XIV applaudit une pièce dans laquelle on fait la satire de ce qui est au cœur de la religion catholique, c'est-à-dire la dévotion. Et donc il dit à Louis XIV, vous ne pouvez pas avoir un double visage. D'un côté, vous présentez comme le héros de l'orthodoxie catholique, et de l'autre, applaudir une pièce qui s'en moque. Et laisser Molière représenter bientôt, dans un mois, au mois de juin, sur son théâtre, devant tout le public parisien, une pièce qui se moque de la dévotion. Et donc, Louis XIV, pour des raisons de politique religieuse, hein, de politique religieuse, j'insiste, est obligé d'interdire cette pièce.
Vous avez frappé trop fort.
Trop ?
Deux hommes étaient ici avant vous. Le président Lamoignon et l'archevêque de Paris. Ardoine Périfix. Et il n'aimait Tartuffe ni l'un ni l'autre.
Mais l'archevêque n'assistait pas à la représentation d'hier soir.
Non.
Comment peut-il ne pas aimer une pièce qu'il n'a pas vue ?
Oh, on s'est empressé de la lui raconter.
Fort mal, assurément. Quand nous la jouerons au Palais Royal, je lui enverrai des places.
Vous ne la jouerez pas au Palais Royal.
Comment vous interprétez la colère de l'Église à ce moment-là ? À l'égard de cette pièce de Molière, quel était l'enjeu pour les ecclésiastiques ?
Alors, je ne sais pas, tout d'abord, si on peut parler d'une colère de l'Église. Ce n'est pas parce que un curé sectaire va dire de la pièce de Molière ou de Molière lui-même qu'il est fanatique, que l'Église, avec un E majuscule, parle par sa bouche. Et même quand c'est un archevêque de Paris qui prend cette décision, ça n'est toujours et encore qu'un archevêque de Paris. Hein, voyez-vous, il faut quand même bien distinguer. Mais je pense que, en effet, fait, la pièce de Molière a été prise comme une attaque globale, finalement, contre le monde dévot, et même plus largement par d'autres, comme une attaque globale contre le christianisme. Et dans cette ambiance, vous voyez, tellement exacerbée par ces querelles, évidemment, ça suffisait pour que cette pièce devienne un objet de scandale et soit condamnée comme telle.
Je vous crois sincère, monsieur. Et suis convaincu que ce n'est pas le ciel que vous malmenez dans votre pièce. Mais c'est au ciel qu'on pensera en la voyant. Nous sommes dans un moment sérieux. Les protestants, les jansénistes, les gallicans, les dévots, le pape. Cela fait bien des parties dans un état comme le nôtre. La violence de ces querelles redouble chaque jour. Bientôt, si nous laissons faire, il n'y aura plus une vérité, mais plusieurs.
Avec l'affaire de ce Tartuffe, autrement dit Molière contre l'Église, pour résumer, on a le sentiment, Fabrice Boutillon, que Molière fut un auteur anti-religieux, même anti-chrétien. Or, vous dites que c'est plus compliqué que ça en a l'air. Pour quelle raison ?
Tout d'abord, il faut être sensible à l'influence qu'exerce sur nous une certaine tradition de lecture, qui est la lecture de l'époque des Lumières et qui est aussi la lecture reprise par le 19e siècle et la Troisième République. C'est-à-dire qu'on veut absolument que Molière ait été un auteur anti-chrétien. Il me semble que quand on regarde les textes eux-mêmes, la réponse doit être beaucoup plus nuancée. D'abord parce que la dénonciation de l'hypocrisie en matière de religion, qui est quand même le cœur de Tartuffe, elle est l'une des poutres maîtresses de l'Évangile. Dans la bouche de Jésus, l'une des thématiques qui revient le plus fréquemment, c'est justement la dénonciation de l'hypocrisie, la dénonciation des pharisiens, de ces sépulcres blanchis.
Malheur à vous, scribes et pharisiens ! Hypocrites que vous êtes, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qu'ils désirent. Conducteurs aveugles.
Ce que vous dites, Fabrice Boutillon, c'est que dans l'évangile selon saint Luc, quand Jésus s'attaque aux pharisiens, vous dites qu'en réalité, Jésus s'attaque à Tartuffe.
Oui, je crois que c'est vrai. Et je serais quand même très étonné que Molière n'y ait pas pensé en écrivant son Tartuffe. J'ajouterais autre chose. S'agissant de Molière et de l'Église, du théâtre et de l'Église, c'est vrai qu'il y a un vieux contentieux entre le théâtre et l'Église qui remonte à l'Antiquité, qui remonte à l'époque où le théâtre antique était en fait une partie de la religion antique. Bon. Mais il y a quand même un fait qu'il ne faut pas perdre de vue, que l'une des origines de la renaissance du théâtre en Occident, après l'Antiquité, vous savez, après l'Antiquité, toutes les institutions s'écroulent et le théâtre antique s'écroule avec le reste. Quand le théâtre va réapparaître peu à peu, une de ses sources, entre autres, c'est la liturgie chrétienne. Parce que dans la messe, vous avez une pièce de théâtre. On rejoue tous les dimanches le dernier repas du Christ. Et il me semble qu'il y a là quelque chose qui mérite aussi d'être pris en considération quand on veut réfléchir au rapport du théâtre et de l'Église.
Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
Votre conduite débauchée est indigne d'un roi très chrétien.
Dans cette affaire Tartuffe, la parole est donnée maintenant à la mère du roi, Anne d'Autriche.
Vous ne ménagez plus rien quand vous séjournez à Fontainebleau. Vous allez chaque jour vous baigner nu dans la rivière avec votre maîtresse. Vous ne pouvez imaginer le chagrin que vous me faites. Repoussée par Monsieur Mazarin, dont j'avais fait la fortune, je le fais maintenant par mon fils. Puisque vous agissez comme si vous n'aviez plus de mère, je me retire au couvent
Au Val-de-Grâce, vous retombez au Val-de-Grâce.
Alors en 1664, voilà Molière privé de son Tartuffe, et on a coutume de lire Georges Forestier parmi les légendes qui entourent Molière, qu'il aurait été victime d'une cabale des dévots, notamment menée entre autres par Anne d'Autriche, la mère de Louis XIV. Qu'en est-il exactement de cette cabale des dévots ?
Écoutez, quand on lit qu'un an plus tôt, je dis bien un an plus tôt, en janvier 1663, à deux reprises, l'école des femmes a été représentée à la cour, et que les gazetiers nous disent que la famille royale, y compris la reine-mère Anne d'Autriche, se tenait les côtes de rire. Quand on voit que Molière dédie la critique de l'école des femmes 6 mois plus tard à Anne d'Autriche, on se dit qu'il faut comprendre quelque chose qu'on ne comprend plus aujourd'hui, qui est qu'autrefois, on pouvait être extrêmement libéral sur le plan des mœurs et en même temps extrêmement religieux sur le plan de sa propre pratique religieuse. Il faut voir concernant la Montespan qui va vivre avec Louis XIV, qui va avoir des enfants avec Louis XIV alors qu'elle est mariée et que lui est marié, qui vont vivre dans un double adultère. Mais la Montespan, elle a des retours moraux monstrueux qui la terrorisent et puis ça repart de l'autre sens. Vous voyez, donc en fait, il n'y a pas une sorte de politique d'un groupe qui serait puissant à la cour, et Louis XIV, de toute façon, il admet aucune contestation de ce point de vue-là. Il n'y a qu'à voir comment son frère, le patron de la troupe de Molière, hein, monsieur, le frère du roi, il est dépourvu de tout pouvoir. Il n'a même pas un gouvernement dans la France, alors que normalement un prince du sang devrait gouverner une province. Lui, même pas. Donc on voit que ce qui se passe, c'est question, encore une fois, de politique religieuse générale. Une affaire d'État, comme vous disiez.
Face à cette interdiction de jouer Tartuffe en public, comment réagit Molière dans les premiers temps ?
Comment il va y réagir ? Il va avoir une chance extraordinaire. Et il a la chance que, en août, paraisse un livre d'un curé fanatique qui a écrit un texte qui s'appelle « L'homme glorieux ». C'est un énorme livre qui raconte ce que c'est que la gloire de l'homme devant Dieu. Et il y a un appendice de 120 pages à peu près quand même, qui s'appelle « Le roi glorieux au monde ». Et dans cet appendice, Le roi glorieux au monde, je l'ai eu entre les mains, il est à la Bibliothèque nationale, c'est un magnifique petit ouvrage relié d'or. Il y a 5 pages consacrées à Molière, dans lesquelles il dénonce Molière comme un diable incarné, et qu'il loue la clémence de Louis XIV de ne pas l'avoir envoyé au bûcher. Et donc Molière, c'est formidable, se poser en victime pour se défendre. Et c'est là qu'il écrit son premier placé. Un placé, c'est un texte de protestation ou de plainte ou de supplication que l'on remet au roi. Et tous les jours, il y avait des dizaines de placés qui étaient remis directement sur une petite table devant le roi. Alors vous parlez, Molière qui a ses entrées justement dans la chambre du roi, il a été bien placé à la sortie de la chambre pour remettre le placé. Et dans ce placé, il dénonce les attaques dont il a été objet. Et c'est là qu'il déploie une argumentation absolument formidable qui est non, je n'ai pas fait la satire de la dévotion. J'ai fait la satire de la fausse dévotion et de l'hypocrisie en général. Et il commence son texte par le but de la comédie étant de corriger les vices des hommes. C'est-à-dire qu'il se pose en auteur moral, ce que jamais il n'avait fait jusqu'ici. Un an plus tôt, dans la critique de l'école des femmes et dans l'impromptu de Versailles, il disait que le but de la comédie, c'est de plaisanter, de faire rire les honnêtes gens en se moquant des comportements des hommes. C'est-à-dire qu'il a une position de ce qu'on appelle aujourd'hui un humoriste. Faire rire des comportements, c'est humoriste. Et là, tout d'un coup, il se pose en auteur moral. J'ai voulu attaquer le plus grand des vices qui soit, l'hypocrisie en général, et particulièrement qui s'incarne dans quoi ? Dans la fausse dévotion. Alors que c'était pas du tout ça, Tartuffe. Hein. Ce sont deux vrais dévots, l'un est ridicule d'aveuglement, et l'autre tombe dans l'hypocrisie parce qu'il n'arrive pas à résister à ses passions.
Molière refuse d'abdiquer, et quelques mois après l'interdiction du Tartuffe, il se lance dans l'écriture d'une nouvelle pièce.
Par précaution, je t'apprends, Internos, que tu vois en Don Juan mon maître, le plus grand scélérat que la terre ait jamais porté. Un chien, un diable, un turc, un hérétique, qui ne croit ni ciel, ni enfer, ni loup-garou, qui passe son temps en véritable bête brute, un pourceau d'Épicure, un vrai sardanapale, qui y ferme l'oreille à toute leur montrance qu'on lui peut faire et traite de biveuser tout ce que nous croyons.
Entre l'interdiction et l'autorisation de jouer Tartuffe, il s'est passé 5 ans. Entre-temps, Molière a écrit d'autres pièces, notamment un Don Juan ou le Festin de Pierre, qui est la condamnation d'un athée, Georges Forestier. Comment est-ce que vous interprétez cette pièce dans la polémique Tartuffe.
Ah ben c'est précisément... Alors, il y a deux raisons. C'est un concours de circonstances qui a permis à Molière de reprendre une pièce qui s'appelait autrefois Le Festin de Pierre. C'est après sa mort qu'on va rebaptiser la pièce Don Juan, Le Festin de Pierre. Pourquoi il reprend Le Festin de Pierre? Tout simplement parce qu'ils ont un trou dans la programmation. Il crée la première pièce de Racine le 22 juin, etc. Mais c'est une tragédie d'un débutant en plein été. Les tragédies, on ne les crée jamais en plein été. C'est pas de quoi remplir les caisses du théâtre. L'idée vient à quelqu'un, un compagnon de Molière, à lui-même. C'est le moment de prendre ce sujet-là. Et Molière saute dessus parce que c'est un sujet moral. À l'origine, c'est un sujet religieux. Pour Molière, c'est pain béni. Une histoire dans laquelle, ce qu'on peut appeler le libertin, au sens des mœurs, libertin des mœurs, eh bien, il va être foudroyé à la fin. Et la statue du commandeur revient exécuter la punition de Don Juan. Donc, choisir cette pièce qui est une pièce morale, c'est formidable, lui qui vient de dire qu'il est un auteur moral. Vous voyez? Regardez ce que j'écris. Et mon Tartuffe, il est innocent. J'ai cherché à m'attaquer aux hypocrites. Alors, il y a une attaque contre ses adversaires, puisque le fameux cinquième acte dans lequel Don Juan fait semblant de s'être converti et annonce que désormais, il pourrait être tranquille, faire toutes ses cochonneries en cachette, et il sera soutenu par le parti. Quel parti? Mais ça, Molière joue avec cette idée du parti dévot qui l'opprime, qui l'attaque, etc. Il joue toujours à être dans cette posture de victime, parce qu'être dans une posture de victime, ça permet d'attaquer, évidemment.
Quoi? Vous ne croyez rien du tout? Et vous voulez cependant vous ériger en homme de bien?
Et pourquoi non? Il y en a tant d'autres comme moi qui se mêlent de ce métier, qui se servent du même masque pour abuser le monde.
Dans son Don Juan, Molière pourfend ce qu'il méprise.
Mais il n'y a plus de honte maintenant à cela. L'hypocrisie est un vice à la mode. Et tous les vices à la mode passent pour vertu. Le personnage d'homme de bien est le meilleur de tous les personnages qu'on peut jouer aujourd'hui. Et la profession d'hypocrite a de merveilleux avantages. C'est un art. De qui l'imposture est toujours respectée, et quoi qu'on la découvre, on n'ose rien dire contre elle. Tous les autres vices des hommes sont exposés à la censure, et chacun a la liberté de les attaquer hautement, mais l'hypocrisie est un vice privilégié, qui de sa main ferme la bouche à tout le monde et jouit d'un repos d'une impunité souveraine. Mais on lit, à force de grimaces, une société étroite avec tous les gens du parti.
Précisons une chose importante. Molière a conservé le droit de jouer son Tartuffe en privé chez les princes de la cour. Et c'est peut-être auprès du grand Condé, cousin du roi, que Molière a entreaperçu une solution à sa censure.
Être plus diplomate, moi? Et c'est vous qui me dites ça, monsieur le prince? Vous qui, pendant la fronde, avez pris les armes contre le roi?
J'ai depuis longtemps fait allégeance à notre souverain. Et de cette mauvaise aventure, j'ai appris une chose, Molière. La ligne droite n'est pas forcément le chemin le plus court pour atteindre son but. C'est pourquoi je vous suggère seulement d'effacer les aspérités de votre pièce. Réécrivez quelques vers, reformulez certaines répliques et faites croire à ces dévots qu'ils écoutent ce qu'ils veulent bien entendre. Donnez à sa majesté plus d'importance, flattez-le et le tour sera joué.
En somme, pour pourfendre les hypocrites, je dois devenir un des leurs.
Molière entreprend alors de modifier sa pièce. Et il transforme Tartuffe en faux dévot, un imposteur, un scélérat, un escroc qui dupe autant ses disciples que l'Église elle-même. Et lorsque Molière lit sa nouvelle version dans les salons mondains, il pose la question.
Y voyez-vous là, madame, de quoi blesser encore quelques esprits mal intentionnés?
Non. Et quelle brillante astuce que d'avoir su déguiser votre Tartuffe en un dangereux aventurier coureur de dot qui se fait passer pour un dévot. Cela plaira à sa majesté.
Ainsi, la pièce de Tartuffe, qu'on a tous étudiée au lycée, n'est donc pas la pièce originale de Molière. La première version comptait 3 actes et s'attaquait à un vrai dévot tiraillé par des tentations, notamment sexuelles.
Un dévot comme un fou, et que partout on a.
Ah, pour être dévot, je n'en suis pas moins homme.
Alors que la seconde version, celle qu'on a conservée comme officielle, fut écrite en 5 actes et s'attaque à l'arnaque d'un faux dévot. C'est différent. C'est donc une pièce de compromis. Et c'est cette seconde version qui fut enfin autorisée à être jouée en public en 1669, lorsque Louis XIV finit par trouver un accord d'apaisement avec les évêques jansénistes. Ce fut la paix de l'Église, au grand soulagement de l'ami Lagrange, le comédien trésorier de la troupe.
Ce n'est pas officiel, mais nous savons. Il suffit d'attendre quelques semaines pour que les choses soient en ordre. Car une date approche, celle du 5 février 1669, qui sera celle de la justice et du triomphe. La véritable première publique de Tartuffe.
À partir donc du mois de février 1669, la pièce est autorisée à être jouée à Paris au Palais Royal. Est-ce un succès, Georges Forestier, à Paris ?
C'est plus que ça. Non, c'est la pièce qui fait exploser les recettes du Palais Royal. Vous vous rendez compte que cette pièce, on l'attend depuis combien d'années ? Il n'est pas la peine de mettre des affiches. Le roi dit le 3 février, d'accord, le 5, ce sont les plus fortes recettes jamais enregistrées au Palais Royal. On a dû doubler les places de tous les secteurs de la pièce, alors que d'habitude, on ne double les places que du parterre lorsqu'il y a une première. Et c'est un triomphe qui va durer plusieurs mois.
Une fortune, donc.
Ah oui, surtout que Molière, qui était très habile, en profite pour faire éditer la pièce à compte d'auteur, c'est-à-dire qu'il s'entend avec l'imprimeur habituel de son libraire habituel, il publie la pièce, elle part en 2 mois, il vend à ce moment-là son privilège royal d'impression et le texte de sa pièce à son éditeur habituel, qui réimprime la pièce immédiatement, qui repart aussi comme des petits pains aussitôt. Et Molière y touche sur tous les tableaux.
Lagrange,
oui ?
Vous avez les recettes de la première semaine ?
Les voici.
Le premier soir, 2860 livres. Non, c'est incroyable.
Ah oui, le chiffre le plus fort que nous ayons fait.
Et ensuite ?
2685 livres le second soir, puis 1895 livres.
Ah, ça baisse.
Non, ça remonte tout de suite. 2074 mardi et 2320 vendredi. Le mot triomphe me paraît faible. Je dirais que c'est glorieux.
Avec une première semaine pareille, on peut tenir plusieurs mois.
Oh là, mais sûrement jusqu'à Pâques et même au-delà.
Tant mieux. Je vous avoue que je ne suis pas très en forme pour écrire une nouvelle pièce. J'aimerais bien exploiter Tartuffe le plus longtemps possible.
Je peux vous poser une question ?
Bien sûr.
Pourquoi n'êtes-vous pas heureux ? Un tel triomphe après 5 ans de lutte.
5 ans, justement. Peut-être était-ce trop long.
Au registre du bilan de cette querelle religieuse incarnée dans l'affaire Tartuffe, peut-on dire que Louis XIV est sorti vainqueur de son combat contre les jansénistes et les dévots ?
Je n'en suis pas certain si on regarde dans la longue durée, y compris seulement dans la longue durée du règne. Vous savez que cette querelle avec le jansénisme va rejaillir sans arrêt jusqu'à la fin du règne de Louis XIV. Louis XIV va finir par faire détruire le monastère de Port-Royal qui était le lieu d'élection du jansénisme. Il va faire exhumer les squelettes des religieuses. Enfin, il va pousser quand même l'antagonisme très loin. Et au XVIIIe siècle, le jansénisme de parti religieux qu'il était, va devenir un parti de plus en plus politique. Et au second XVIIIe siècle, les jansénistes vont finir par avoir la peau des jésuites, tout d'abord. Hein. Ils vont être au cœur d'une campagne qui aboutira à la suppression mondiale de la compagnie de Jésus. Ils vont soutenir l'opposition des parlementaires à la monarchie. Et au total, cette affaire-là va coûter très très cher à la dynastie de Louis XIV. Elle a contribué à lui coûter son trône. Et donc, je ne suis pas sûr du tout que sur le long terme, Louis XIV en soit sorti grandi. Mais il y a au moins une chose qu'il faut lui reconnaître, c'est que dans l'affaire, il a permis Molière.
La musique du roi !
Au moment même où Molière se voit autorisé de jouer son Tartuffe, il faut noter qu'une femme entre dans la vie de Louis XIV.
Voyons, madame, les enfants méritent-ils à cette heure des compliments ou des remontrances ?
La gouvernante de ses enfants naturels avec madame de Montespan, madame de Maintenon.
Lisez un peu, monsieur, que je vous entende.
Madame de Montespan se plaisait à faire attendre le roi lorsqu'il venait la voir. Le roi venait alors dans la chambre de ses enfants où il passait de longs moments. Nous causions librement. Parfois, le roi prenait sa guitare et nous chantait quelques jolies mélodies de Lully.
Ouvrons tous nos yeux à l'éclat suprême qui brille en ces lieux.
Aussi longtemps que le roi en était resté aux paroles et aux regards, je m'étais crue assez forte. À présent qu'il en était venu aux gestes, il fallait fuir ou bien céder.
Qui soit fait de même.
Pour finir, Georges Forestier, au moment où l'affaire du Tartuffe se dénoue en 1669, entre une femme à la cour de Louis XIV. Pas n'importe qui, Madame de Maintenon. Est-ce que ce n'est pas l'ironie du sort avec le recul? Parce qu'elle va être, elle, une des grandes artisanes du retour vers la dévotion de Louis XIV.
Oui. Mais ça peut expliquer le fait que Molière ait eu la chance de mourir à 51 ans d'une épidémie qui a fauché des quelques dizaines de Parisiens en même temps que lui. Parce que s'il avait vécu et continué jusque dans les années 80, à cause de Madame de Maintenon, il aurait été obligé de rentrer dans le rang et ça aurait plus été le même Molière. Peut-être qu'à ce moment-là, il serait devenu écrivain. Mais ce que je veux dire, c'est que quelles étaient, par contre, les idées de Madame de Maintenon dans les années 60? Il faut savoir que Françoise d'Esbigné épouse Scarron. Elle a quand même vécu un certain temps avec un homme qui était très libéral sur le plan des idées, qui était proche de ce qu'on appelait les libertins philosophiques, hein, c'est-à-dire ceux qui refusaient de se soumettre à toutes sortes de dogmes sans les examiner. Donc en fait, les précurseurs des Lumières, en quelque sorte. Et ensuite aussi, elle fréquente les salons parisiens. Et si à la fin de sa vie, dès qu'elle devient épouse de Louis XIV, elle constitue une institution pour instruire les jeunes filles de la noblesse qui va s'appeler Saint-Cyr, donc, eh bien, c'est bien parce que elle fait partie de tout ce vaste groupe de femmes qui fréquentent les salons mondains dans les années 50, 60, 70, qui sont absolument pour l'égalité entre les hommes et les femmes, pour l'instruction féminine, ce groupe-là qui soutient Molière en général. Donc, il est possible que Madame de Maintenon n'ait rien vu à redire dans le Molière des années 60, et puis qu'elle ait progressivement changé en avançant en âge, avec sa posture désormais dans les années 70 de préceptrice des enfants du roi. Donc, et encore une fois, il faut bien voir les choses, c'est que dans beaucoup de personnes du XVIIe siècle, il y a les deux facettes. La Fontaine écrivant des contes légers et de l'autre côté des textes religieux. On trouve ça constamment, cette double face, qui n'était pas pour eux de l'hypocrisie, c'était une double face que l'on avait, parce qu'on ne pouvait pas rester tout le temps dans le sérieux. Saint Thomas le dit, hein, il faut se détendre.
Le chien et le loup, double face.
Voilà.
En conclusion de ce septième épisode, il faut redire combien cette affaire Tartuffe fut complexe et qu'il ne faut jamais l'extraire de son époque. Avant Tartuffe, l'ambition de Molière avec ses pièces consistait à faire rire ses contemporains en se moquant des attitudes outrancières. Avec le scandale Tartuffe, Molière prend une autre dimension. Il a inventé la comédie morale. Par le rire, Molière fait réfléchir son public pour qu'il exerce un esprit critique sur la foi, sans être anti-religieux. Son art vise désormais à corriger les vices. En 1666, alors qu'il s'apprête à perdre sa mère, Louis XIV en avait pleinement conscience.
Vos comédies me font le plus grand bien en prévision de ces funèbres oraisons qui m'attendent.
Que dites-vous là, sire ?
Ma mère, sa santé ne s'est pas améliorée, ce n'est qu'une affaire de moi.
Et vos médecins, que disent-ils ?
Tout est son contraire, comme à chaque fois qu'ils masquent leur ignorance par de savants mots en latin.
N'est-ce pas là la langue des hypocrites ?
Après l'hypocrisie des faux dévots, Molière s'est donc attaqué aux médecins et à leurs pauvres malades. C'est l'horizon du prochain épisode.
Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Toute notre équipe vous remercie pour votre attention. Bon après-midi.
Molière, Le chien et le loup. Un récit de Philippe Collin, réalisé par Violaine Ballet. Assistance éditoriale, Estelle Gap. Documentation sonore, Clary Monac. Mixage, Julien Chabassu. Prochain épisode, Le règne des charlatans. Molière, Le chien et le loup est un podcast original de France Inter avec la Comédie Française.